La division du travail. La société, telle qu'elle apparaît à l'économiste, est la société bourgeoise, où chaque individu est un ensemble de besoins, où tous les individus n'existent les uns pour les autres que dans la mesure où ils deviennent chacun un moyen pour les autres. L'économiste, tout comme la politique dans ses droits de l'homme, réduit tout à l'homme, c'est-à-dire à l'individu qu'il dépouille de toute détermination pour le fixer comme capitaliste ou bien comme ouvrier. La division du travail est l'expression économique du caractère social du travail à l'intérieur de l'aliénation. Or, le travail n'est qu'une expression de l'activité humaine à l'intérieur de l'aliénation, une manifestation vitale transformée en aliénation de la vie. Il en résulte que la division du travail n'est elle-même pas autre chose que le fait de poser, d'une manière étrangère et aliénée, l'activité humaine comme une activité générique réelle ou comme l'activité de l'homme en tant qu'être générique. La division du travail devait naturellement être conçue comme un facteur essentiel de la production de la richesse, dès l'instant où le travail était reconnu comme l'essence de la propriété privée. En revanche, les avis des économistes sur l'essence du travail, cette forme étrangère et aliénée de l'activité humaine en tant qu'activité générique, sont très obscurs et contradictoires. Adam Smith, deux points, ouvrez les guillemets. Cette division du travail ne doit pas être regardée dans son origine comme l'effet d'une sagesse humaine. Elle est la conséquence nécessaire, lente et graduelle, de ce penchant à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre. Ce penchant au commerce est probablement une conséquence nécessaire de l'usage du raisonnement et de la parole. Il est commun à tous les hommes, et on ne l'aperçoit dans aucune autre espèce d'animaux. Dans presque toutes les autres espèces d'animaux, chaque individu, quand il est parvenu à sa pleine croissance, est tout à fait indépendant. Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de son fait en s'adressant à leur intérêt personnel et en les persuadant qu'il y va de leur propre avantage de faire ce qu'ils souhaitent d'eux. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Comme c'est ainsi par traité, par troc et par achat, que nous obtenons des autres la plupart de ces bons offices qui nous sont mutuellement nécessaires. C'est cette même disposition à trafiquer qui a, dans l'origine, donné lieu à la division du travail. Par exemple, dans une tribu de chasseurs ou de bergers, un particulier fait des arcs et des flèches avec plus de célérité et d'adresse qu'un autre. Il troque souvent avec ses compagnons ces sortes d'ouvrages contre du bétail ou du gibier. Et il s'aperçoit bientôt que par ce moyen, il peut se procurer plus de bétail et de gibier que s'il se mettait lui-même en campagne pour en avoir. Par calcul d'intérêt, donc, il fait sa principale affaire de fabriquer des arcs et des flèches. La différence des talents naturels entre les individus n'est pas tant la cause que l'effet de la division du travail. Sans la disposition des hommes à trafiquer et à échanger, chacun aurait été obligé de se procurer à soi-même toutes les nécessités et commodités de la vie. Chacun aurait eu la même tâche à remplir et le même ouvrage à faire. Et cette grande différence d'occupation, qui seule peut donner naissance à une grande différence de talent, n'aurait pas eu lieu. Comme c'est un penchant à troquer qui donne lieu à cette diversité de talents, si remarquable entre hommes de différentes professions, c'est aussi ce même penchant qui rend cette diversité utile. Beaucoup de races d'animaux, qu'on reconnaît pour être de la même espèce, ont reçu de la nature des signes distinctifs, quant à leur disposition, beaucoup plus remarquables que ceux qu'on pourrait observer entre les hommes, antérieurement à l'effet des habitudes et de l'éducation. Par nature, un philosophe n'est pas de moitié aussi différent qu'un portefeuille, en talent et en intelligence, qu'un matin l'est d'un lévrier, un lévrier d'un épagneul, et celui-ci d'un chien de berger. Toutefois, ces différentes races d'animaux, quoique de même espèce, ne sont presque d'aucune utilité les unes pour les autres. Le matin ne peut pas ajouter aux avantages de sa force en s'aidant de la légèreté du lévrier. Les effets de ces différents talents ou degrés d'intelligence, faute d'une faculté ou d'un penchant au commerce ou à l'échange, ne peuvent être mis en commun, et ne peuvent le moins du monde contribuer à l'avantage ou à la commodité commune de l'espèce. Chaque animal est toujours obligé de s'entretenir et de se défendre lui-même à part et indépendamment des autres. Et il ne peut retirer la moindre utilité de cette variété de talents que la nature a répartie entre ses pareils. Parmi les hommes, au contraire, les talents les plus disparates sont utiles les uns aux autres, parce que les différents produits de chacune de leurs diverses sortes d'industries respectives, au moyen de ce penchant universel à troquer et à commercer, se trouvent mis, pour ainsi dire, en une masse commune où chaque homme peut aller acheter, suivant ses besoins, une portion quelconque du produit de l'industrie des autres. Puisque c'est la faculté d'échanger qui donne lieu à la division du travail, l'accroissement de cette division doit par conséquent toujours être limité par l'étendue de la faculté d'échanger ou, en d'autres termes, par l'étendue du marché. Si le marché est très petit, personne ne sera encouragé à s'adonner entièrement à une seule occupation, faute de pouvoir trouver à échanger tout ce surplus du produit de son travail qui excédera sa propre consommation contre un pareil surplus du produit du travail d'autrui qu'il voudrait se procurer. Dans l'état avancé, ainsi chaque homme subsiste d'échange ou devient une espèce de marchand, et la société elle-même est proprement une société commerçante. L'accumulation des capitaux augmente avec la division du travail et réciproquement. Fermez les guillemets. Voilà pour Adam Smith. Ouvrez les guillemets. Si chaque famille produisait la totalité des objets de sa consommation, la société pourrait marcher ainsi. Quoiqu'il ne fût aucune espèce d'échange, je sais que, sans être fondamentaux, ils sont indispensables dans l'état avancé de nos sociétés. On peut dire que la séparation des travaux est un habile emploi des forces de l'homme, qu'elle accroît en conséquence les produits de la société, c'est-à-dire sa puissance et ses jouissances, mais qu'elle ôte quelque chose à la capacité de chaque homme pris individuellement. La production ne peut avoir lieu sans échange. Fermez les guillemets. Ce sont les mots de Jean-Baptiste Say. Ouvrez les guillemets. Les forces inhérentes à l'homme sont son intelligence et son aptitude physique au travail. Celles qui dérivent de l'état de société consistent dans la faculté de diviser et de répartir parmi les hommes les divers travaux, et dans la faculté d'échanger les services mutuels et les produits qui constituent ses moyens. Les motifs pour lesquels il consent à vouer ses services à autrui sont l'égoïsme. L'homme exige une récompense pour les services rendus à autrui. L'existence du droit de propriété exclusive est donc indispensable pour que l'échange puisse s'établir parmi les hommes. influence réciproque de la division d'industrie sur l'échange et de l'échange sur cette division. Fermez les guillemets. C'est ce que dit Scarbeck. Mill présente l'échange développé, le commerce, comme une conséquence de la division du travail. Ouvrez les guillemets. L'action de l'homme peut être ramenée à de très simples éléments. Il ne peut, en effet, rien faire de plus que produire du mouvement. Il peut mouvoir les choses pour les approcher ou les éloigner les unes des autres. Les propriétés de la matière font tout le reste. Dans l'emploi du travail et des machines, on trouve souvent que les effets peuvent être augmentés en séparant toutes les opérations qui ont une tendance à se contrarier, et en réunissant toutes celles qui peuvent, de quelque manière que ce soit, se faciliter les unes des autres. Comme en général, les hommes ne peuvent exécuter beaucoup d'opérations différentes avec la même vitesse et la même dextérité qu'ils parviennent, par l'habitude, à en exécuter un petit nombre, il est toujours avantageux de limiter autant que possible le nombre d'opérations confiées à chaque individu. Pour diviser le travail et distribuer les forces des hommes et des machines de la manière la plus avantageuse, il est nécessaire, dans une foule de cas, d'opérer sur une grande échelle ou, en d'autres termes, de produire les richesses par grande masse. C'est cet avantage qui donne naissance aux grandes manufactures. Un petit nombre de ces manufactures, placées dans les positions les plus convenables, approvisionnent quelquefois, non pas un seul, mais plusieurs pays, de la quantité qu'on y désire de l'objet qu'elles produisent. Fermez les guillemets. Voilà ce que dit Mill. Toutefois, l'économie politique moderne, dans son ensemble, s'accorde sur le fait que division du travail et richesse de la production, division du travail et accumulation d'un capital, se conditionnent réciproquement, ainsi que sur le fait que seule la propriété privée affranchie, laissée à elle-même, est à même de produire la division du travail la plus utile et la plus étendue. On peut résumer ainsi le développement d'Adam Smith. La division du travail confère au travail une capacité infinie de production. Elle est fondée sur la disposition à l'échange et au trafic, disposition spécifiquement humaine qui n'est vraisemblablement pas fortuite, mais conditionnée par l'usage de la raison et du langage. Le mobile de celui qui pratique l'échange n'est pas l'humanité, mais l'égoïsme. La diversité des talents humains est l'effet plutôt que la cause de la division du travail, c'est-à-dire l'échange. C'est aussi ce dernier seulement qui rend utile cette diversité. Les qualités particulières des diverses races d'une espèce animale sont par nature plus fortement marquées que la diversité des dons et de l'activité humaine. Mais comme les animaux ne peuvent pas échanger, la propriété différente d'un animal de la même espèce, mais de race différente, ne sert à aucun autre animal. Les animaux ne peuvent pas additionner les qualités différentes de leur espèce. Ils ne peuvent en rien contribuer à l'avantage ou à la commodité commune de leur espèce. Il en va différemment pour l'homme, chez qui les talents et les modes d'activité les plus disparates sont utiles les uns aux autres parce qu'ils peuvent rassembler leurs divers produits en une masse commune où chacun peut acheter. De même que la division du travail naît de la disposition à l'échange, du marché, elle s'accroît, elle est limitée du fait de l'étendue, de l'échange et du marché. Dans l'état avancé, chaque homme est commerçant. La société est une société de commerce. Say considère l'échange comme fortuit et non fondamental. La société pourrait subsister sans lui. Il devient indispensable dans l'état avancé de la société. Cependant, la production ne peut avoir lieu sans lui. La division du travail est un moyen commode et utile, une habile utilisation des forces humaines pour la richesse sociale. Mais elle diminue la capacité de chaque homme pris individuellement. Cette dernière remarque de Say est un progrès. Scarbeck distingue les forces individuelles inhérentes à l'homme, l'intelligence et la disposition physique au travail, des forces dérivées de la société, l'échange et l'emploi qui se conditionnent réciproquement. Mais la condition nécessaire de l'échange est la propriété privée. Scarbeck exprime ici, sous une forme objective, ce que Smith, Say, Ricardo, etc. disent lorsqu'ils font de l'égoïsme, de l'intérêt privé, le fondement de l'échange, ou du trafic, la forme essentielle et adéquate de l'échange. Mill présente le commerce comme la conséquence de la division du travail. L'activité humaine se réduit pour lui à un mouvement mécanique. La division du travail et l'utilisation des machines font progresser la richesse de la production. On doit confier à chaque homme un cercle aussi réduit que possible d'opérations. De leur côté, la division du travail et l'utilisation des machines conditionnent la production de la richesse en masse, donc du produit. C'est le fondement des grandes manufactures. L'examen de la division du travail et de l'échange est du plus haut intérêt, parce qu'ils sont l'expression visiblement aliénée de l'activité et de la force essentielle de l'homme en tant qu'activité et force essentielle générique. Dire que la division du travail et l'échange reposent sur la propriété privée n'est pas autre chose qu'affirmer que le travail est l'essence de la propriété privée. Affirmation que l'économiste ne peut pas prouver et que nous allons prouver pour lui. Dans le fait précisément que division du travail et échange sont des formes de la propriété privée, réside la double preuve que, d'une part, la vie humaine avait besoin de la propriété privée pour se réaliser, et que, d'autre part, elle a maintenant besoin de l'abolition de la propriété privée. Division du travail et échange sont les deux phénomènes sur lesquels s'appuie l'économiste pour démontrer le caractère social de la science. Mais lorsqu'il affirme en même temps que la société se fonde sur l'intérêt privé à social, il exprime inconsciemment, d'une seule haleine, la contradiction de sa science. Les aspects que nous avons à examiner sont les suivants. D'une part, la disposition à l'échange, dont le motif est trouvé dans l'égoïsme, est considérée comme la cause ou l'effet en retour de la division du travail. Say estime que l'échange n'est pas fondamental et essentiel à la société. La richesse, la production est expliquée par la division du travail et l'échange. On admet que la division du travail provoque l'appauvrissement et la dégradation de l'activité individuelle. L'échange et la division du travail sont reconnus comme les producteurs de la grande diversité des talents humains. Diversité qui retrouve son utilité grâce à l'échange. Scarbeck divise les formes de production ou les forces essentielles productives de l'homme en deux parties. Premièrement, les forces individuelles qui lui sont inhérentes, c'est-à-dire son intelligence et sa disposition ou aptitude particulière au travail. Deuxièmement, celles qui sont dérivées de la société, non de l'individu réel, c'est-à-dire la division du travail et l'échange. En outre, la division du travail est limitée par le marché. Le travail humain est un simple mouvement mécanique. L'essentiel est fait par les propriétés matérielles des objets. Il faut attribuer à un individu le moins d'opérations possibles. Morcellement du travail et concentration du capital, insignifiance de la production individuelle et production de la richesse en masse. Comprendre le rôle de la propriété privée libre dans la division du travail.